From New York, this is Democracy Now!
My name is Pauli Murray, and my field of concentration has been human rights. My whole personal history has been a struggle to meet standards of excellence in a society which has been dominated by the ideas that blacks were inherently inferior to whites and women were inherently inferior to men.
My name is Pauli Murray. A new documentary from the directors of RBG explores the remarkable life of Pauli Murray, a groundbreaking legal scholar who influenced Ruth Bader Ginsburg and Thurgood Marshall, and a civil rights pioneer who was arrested 15 years before Rosa Parks for refusing to give up a seat on a segregated bus. Pauli later helped found the National Organization for Women. Pauli also became a priest and is now a saint in the Episcopal Church. Pauli Murray is also viewed as a hero to many in the trans rights movement. We'll speak to the Academy Award-nominated filmmakers Julie Cohen and Betsy West, plus Dolores Chandler, a trans writer and social worker featured in the film.
We've been taught to believe that people like us don't exist. So when I came to know and learn about Pauli Murray, I was so amazed and wanted to, like, hold it so tightly. And also, I was angry. I was so angry that I felt in some ways that I had been robbed of a part of my history.
Pauli Murray for the hour. All that and more coming up. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, the Quarantine Report. I'm Amy Goodman. The United States reported another 4,000 deaths from COVID-19 Thursday, as a fast-spreading coronavirus variant first seen in South Africa was detected in South Carolina for the first time. Daily U.S. infections have been on the decline after shattering world records earlier this month, but remain at extremely high levels of about 150,000 per day. Disease experts worry new variants, coupled with fatigue over masks and social distancing, could lead to another surge in cases. Here in New York, Attorney General Letitia James said Thursday Governor Andrew Cuomo's administration undercounted COVID-19 deaths at nursing homes by as much as 50%. Just hours after James' announcement, New York Health Department officials added nearly 4,000 nursing home deaths to New York's tally. Drug maker Novavax said Thursday its COVID-19 vaccine showed nearly 90% efficacy at preventing disease in patients in a large clinical trial in the UK. But worryingly, the Novavax vaccine showed only a 50% efficacy rate in a smaller trial in South Africa, where a new variant of coronavirus has been spreading rapidly. The Novavax immunization is a protein-based vaccine that trains people's immune systems to recognize the spike proteins that surround the coronavirus. Several mutations in the South African variant led to changes in the spike protein that can help it evade immune responses. At the World Health Organization, Emergencies Director Dr. Mike Ryan said vaccine makers may have to tweak their formulas as the coronavirus continues to evolve.
Look at influenza. We change the vaccine composition twice a year for the northern and southern hemisphere, and we're able to issue vaccines very, very quickly to combat the predominant flu strains every year. So there's no reason, even down the line, if this virus evolves to a point where our vaccines begin to lose effectiveness, we can adapt those vaccines. And I believe we can adapt those vaccines quickly.
President Biden signed an executive order Thursday restoring mandates of the Affordable Care Act and Medicaid that were undermined under President Trump. Biden's order also adds a new special enrollment period for people to purchase a health care plan through the federal insurance marketplace. That period runs from February 15th through May 15th.
There's nothing new that we're doing here other than restoring the Affordable Care Act and restoring the Medicaid to the way it was before Trump became president.
The U.S. economy shrank by 3.5% last year, the worst drop since 1946. The Commerce Department reports the economy grew by 4% in the last quarter of 2020, but that was not nearly enough to offset declines earlier in the year. Another 847,000 U.S. workers filed new jobless claims last week, with unemployment remaining historically high. On Thursday, Democratic leaders signaled they'll attempt to push Biden's proposed $1.9 trillion coronavirus relief package through Congress by mid-March. An Arkansas man who boasted to reporters about looting the office of House Speaker Pelosi on January 6 will remain behind bars while he awaits trial. On Thursday, Chief U.S. District Judge Beryl Howell denied bail to Richard Barnett, who infamously posed for photos with his feet on Pelosi's desk and later showed off mail he'd stolen from her office. Judge Howell blasted Barnett as a brazen, entitled, dangerous, and a braggart who showed a total disregard for the law and the U.S. Constitution. She added, quote, "We're still living here in D.C. with the consequences of the violence in which this defendant is alleged to have participated. I can still see heavily armed National Guard troops patrolling from my window," unquote. House Speaker Nancy Pelosi slammed her Republican counterparts for giving Georgia freshman Congressmember Marjorie Taylor Greene a seat on the Education Committee after she claimed that many mass shootings were fake.
Assigning her to the Education Committee when she has mocked the killing of little children at Sandy Hook Elementary School, when she has mocked the killing of teenagers in high school at the Marjory Stoneham Douglas High School. What could they be thinking, or is thinking too generous a word for what they might be doing? It's absolutely appalling.
This comes as more disturbing revelations about Marjorie Taylor Greene have emerged from her social media history. In 2018, she falsely claimed a laser beam started the deadly campfire in California. Greene cited Rothschild Inc., a common anti-Semitic trope, as being responsible. In fact, Pacific Gas and Electric has pleaded guilty in the deaths of 84 people killed in the wildfire. The QAnon-supporting congressmember has also backed calls for violence against Democrats, promoted other anti-Semitic and anti-Muslim conspiracy theories, and made racist remarks. House Republican Minority Leader Kevin McCarthy signaled continuing loyalty to Donald Trump Thursday after a meeting with the former president at his Mar-a-Lago estate in Florida. In a statement, Congressmember McCarthy said Trump would help a united conservative movement to elect Republicans to the House and Senate in 2022. McCarthy's visit came on the same day Florida Republican Congressmember Matt Gaetz led a rally at the Wyoming state capitol calling on voters to reject Republican Congresswoman Liz Cheney during primary elections. Cheney's the third highest-ranking Republican leader in the House and was one of the 10 GOP lawmakers who voted to impeach the president for inciting the January 6 assault on the Capitol.
If you want to prove that you have the power, defeat Liz Cheney in this upcoming election, and Wyoming will bring Washington to its knees.
Congressmember Gaetz said he spoke with former President Trump ahead of the rally, and Donald Trump Jr. joined the rally by speakerphone. In India, farm workers taking part in a historic uprising called off a march to parliament next week following deadly violence during a protest earlier this week that left one person dead and hundreds injured. The head of the farmers' union condemned the violence, which saw some farmers break off from the main protest and breach the historic Red Fort complex, some driving tractors. Police pushed the farmers back with tear gas and batons. Indian police are using facial recognition technology to identify suspects in the Red Fort breach. Pakistan's Supreme Court ruled to release four men convicted of kidnapping and murdering Wall Street Journal reporter Daniel Pearl in 2002. His attackers famously recorded his beheading and sent the video to U.S. officials. The court cited insufficient evidence and inconsistencies in the case, which was reexamined last year. The White House described the decision to release the perpetrators as, quote, an affront to terrorism victims everywhere, and administration officials said they would seek to put one of the men, British national Ahmed Omar Said Sheikh, on trial in the United States. President Biden's expected to name Robert Malley, a former advisor in the Obama and Clinton administrations, as the U.S. special envoy on Iran. Malley was a key figure in negotiating the landmark 2015 Iran nuclear deal, which Trump unilaterally withdrew the U.S. from. Russian authorities are cracking down on TikTok and other social media sites ahead of planned anti-corruption and anti-dictatorship protests being planned for the weekend. Last weekend's rallies were met with extraordinary police violence and nearly 4,000 arrests after tens of thousands of people took to the streets of cities across 11 time zones in some of the biggest protests ever to challenge Vladimir Putin's rule. Police have stepped up arrests and home searches targeting supporters of opposition nationalist politician Alexei Navalny, who was arrested upon his return to Russia earlier this month after surviving an assassination attempt in 2020. Navalny says the attack using the Soviet-era nerve gas Novichok took place on Putin's orders. On Thursday, a court in Moscow ordered Navalny to be jailed for 30 days ahead of his trial. Navalny spoke by video link from jail.
I want to say one more time, you won't succeed in frightening us. In fact, we are the majority. You won't manage to frighten dozens of millions of people who were robbed by those in power, despite the fact that those people who are now under arrest faced hardships.
In Germany, a neo-Nazi who murdered regional political official Walter Lübcke has been sentenced to life in prison. Stefan Ernst shot Lübcke on the terrace of his house in 2019. Lübcke has been targeted by far-right extremists over support of Chancellor Angela Merkel's immigration policy, which opened Germany's doors to asylum seekers during the 2015-16 refugee crisis. A Dutch appeals court has ruled Shell is responsible for oil spills in 2004 and 2005 in Nigeria's Niger Delta and must pay damages. The case was brought by Friends of the Earth and Nigerian farmers who were seeking compensation for the leaks that contaminated their land and deprived them of income. The ruling could lead to more cases against Royal Dutch Shell. General Motors said Thursday it'll stop manufacturing cars that produce tailpipe emissions by 2035 as part of a pledge to become carbon neutral by 2040. GM's move to all-electric cars could cause other major automakers to follow suit. A recent report by the Union of Concerned Scientists found electric cars generate half the emissions of the average comparable gasoline car, even when pollution from battery manufacturing is accounted for. Lawmakers are demanding a congressional investigation into the trading app Robinhood after it stopped allowing users to purchase stock in the video game retailer GameStop and other companies. GameStop's share prices have swung dramatically in recent weeks, at one point surging by over 1,800% after amateur investors on Reddit boosted its price, costing billions of dollars in losses to major hedge funds that were betting on its share price to fall. A class action suit brought Thursday accuses Robinhood of manipulating the open market to benefit hedge funds at the expense of amateur traders. New York Democratic Congressmember Alexandria Ocasio-Cortez tweeted in response, quote, "Gotta admit, it's really something to see Wall Streeters with a long history of treating our economy as a casino complain about a message board of posters also treating the market as a casino." She added, quote, "Anyways, tax the rich," unquote. In media news, the Daily Beast reports New York Times science and health reporter Donald McNeil Jr. was under investigation over offensive and racist comments he allegedly made while leading a trip to Peru with high school students in 2019. After the trip, several of the students told their parents McNeil had repeatedly made sexist comments and used the N-word. New York Times executive editor Dean Baquet said the investigation concluded McNeil's remarks were offensive and that he showed extremely poor judgment, but it did not appear to me that his intentions were hateful, he said. McNeil has been at the paper since 1976 and is now a top coronavirus correspondent. In more media news, two top executives at CBS were suspended earlier this week over accusations of sexist and racist behavior, and following an investigation by the Los Angeles Times detailing how the two executives continuously bullied women journalists, blocked promotions for black journalists, and made racist comments. Peter Dunn, president of the CBS television stations, and David Friend, senior vice president of news, have been placed on administrative leave while a third-party investigation is ongoing. In Texas, the Austin City Council voted earlier this week to buy a hotel that'll serve as permanent housing for dozens of chronically unhoused people and use money taken from the city's police budget to provide resources for the people who will live in the hotel. The council back in August voted to cut some $100 million from the police department's budget. A recurring $6.5 million payment from those cuts is being set aside to fund permanent supportive housing and other services for unhoused people. In Georgia, at least six people were killed after a liquid nitrogen leak at a Gainesville poultry processing plant Thursday. Nearly a dozen others were sent to the hospital. The plant is owned by the Foundation Food Group. Mexican officials said at least two of the workers who died were from Mexico. Most of the workforce in Gainesville's meat processing plants are Latinx. In 2019, four in every 100 meat processing plant workers in the U.S. recorded a workplace injury, and at least 12 people died at the workplace.
d'écouter La politique en question, le balado du département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Dans chaque épisode de cette nouvelle série balado, nous nous entretenons avec des professeurs, chercheurs et praticiens qui nous aident à repenser le monde et la politique. Bonne écoute!
Bonjour, je me présente Édouard Pontazo, diplômé à la maîtrise au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Le sujet du mémoire de fin de cycle que vous pouvez trouver en ligne sur le site du département est l'Azerbaïdjan, de la rente pétrolière à la corruption généralisée. Il s'agissait notamment d'analyser le façonnement d'un système politique à travers les caractéristiques économiques d'un pays. J'ai eu l'honneur d'être le dernier étudiant à travailler sous la direction de M. Luc Duhamel. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de m'entretenir avec Guillaume Sauvé, spécialiste des États post-soviétiques et des idéologies politiques. Il est professeur au baccalauréat en tant que professeur invité au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Attardons-nous sur un pays central de cet espace post-soviétique, la Russie. D'abord, on peut se demander s'il est toujours pertinent de parler d'idéologie politique aujourd'hui, en particulier en Russie. La chute de l'Union soviétique n'a-t-elle pas entraîné la fin des idéologies ?
Mais c'est effectivement un excellent point de départ pour notre discussion. Il y a ce point de vue qui est très répandu dans les médias, cette idée que donc avec la fin de l'URSS, la fin de la guerre froide, on serait arrivé à la fin des idéologies. Ouais. Alors c'est cette fameuse thèse de Fukuyama sur la fin de l'histoire. Mais plus spécifiquement au sujet de la Russie, on a cette idée que donc, ben, puisque l'idéologie soviétique a pris fin, eh bien la Russie post-soviétique est aussi post-idéologique. Alors, juste pour rappeler à quoi on fait référence là, quand on parlait d'idéologie soviétique, pour mettre le terrain, pour rappeler que l'URSS, donc l'Union soviétique, avait une doctrine idéologique officielle. Et que cette doctrine idéologique officielle était une forme de socialisme qui s'appelait le marxisme-léninisme, qui interprétait, pour le dire rapidement, le monde à l'aune de la lutte des classes, et qui se voulait matérialiste en ce qu'il considérait que c'était les conditions socio-économiques qui déterminent les idées, etc., etc. Or, pourquoi on parle d'effondrement de l'idéologie soviétique? Parce que, et là, il y a une vraie base empirique, à la fin des années 80, en Russie, cette idéologie officielle va s'effondrer, c'est-à-dire qu'elle va être rejetée à la fois massivement par la population et même par l'État lui-même. Donc là, évidemment, la question qui se pose... c'est pourquoi, hein, que, comment une telle chose a pu arriver. Avant d'expliquer mon interprétation des choses, juste peut-être revenir sur deux interprétations très courantes qu'il y a de l'effondrement du marxisme-léninisme, qui vont peut-être résonner avec ce que les auditeurs ont déjà entendu par ailleurs dans les médias ou ont lu dans les livres. La première, c'est tout simplement que eh bien, l'idéologie soviétique devait tomber fatalement parce que l'idéologie, à la base, c'est une illusion. Ouais. L'idéologie, c'est un masque qui cache la réalité et qui peut fonctionner, auquel les gens peuvent croire quand ils sont peu éduqués, comme l'était la population massivement agraire de la Russie avant son industrialisation. Mais qu'à partir du moment où l'Union soviétique, comme la plupart des pays occidentaux, va s'urbaniser et le niveau d'éducation va s'élever très rapidement, eh bien, les gens plus éduqués, les soviétiques, vont tout simplement, dans une sorte de progrès cognitif, le progrès de la connaissance, en venir à dépasser leurs illusions et voir la réalité en face et donc abandonner l'idéologie. Donc ça, c'est une première explication de la chute de l'idéologie. C'est tout simplement le progrès de la connaissance. Les gens ont surmonté leurs illusions, ont découvert la réalité. Une autre explication qu'il faut dire s'appuie un peu sur les insuffisances de la première. Et les insuffisances de la première, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte assez rapidement en Russie post-soviétique que bien des traits qu'on avait associés à l'idéologie soviétique avaient persisté parmi les Russes après la mort de l'idéologie soviétique. Le principal d'entre eux est l'attachement à un leader autoritaire fort. Et donc, toute la question se posait, mais mon Dieu, puisque les Russes ont dépassé leurs illusions, puisqu'ils sont rendus éduqués, urbanisés, etc., comment ça se fait qu'ils sont encore en train de s'attacher à ce qu'on pensait, justement, faire partie d'une idéologie qui leur avait été imposée? Alors, l'autre explication, justement, c'était celle de la culture politique russe. autre explication ou interprétation que les auditeurs peuvent déjà avoir entendue par ailleurs, parce qu'elle est très fréquente, c'est cette idée que les Russes sont culturellement prédisposés à l'autoritarisme, à l'impérialisme et à toutes sortes d'autres mauvais penchants, comme ça, qui leur seraient légués donc par une culture politique autoritaire qui remonterait, mon Dieu, à l'époque du tsarisme, si ce n'est même avant. Explication qui, effectivement, est devenue extrêmement populaire dans les années 90 pour expliquer le fait que les Russes restaient attachés à l'autoritarisme alors même que l'idéologie soviétique venait de tomber. Moi, l'approche des idéologies dont je vais adopter aujourd'hui pour en parler dans la Russie contemporaine se distingue de ces deux interprétations-là, c'est-à-dire que je ne veux pas considérer que l'idéologie relève d'une illusion qu'on pourrait dépasser par une meilleure connaissance. Je ne veux pas non plus considérer que l'idéologie relève de mentalités qui se perpétueraient de manière relativement stable à travers le temps. Je veux parler toujours d'idéologie, en fait, au pluriel. C'est-à-dire, on ne va pas parler de l'idéologie en Russie, on va parler des idéologies. Là-dessus, je m'appuie sur la perspective sur les idéologies de Michael Friedan, qui est un grand spécialiste de la question, qui, en fait, va dire, voilà, qu'est-ce que c'est les idéologies? C'est tout simplement un ensemble d'idées et d'arguments qui définissent le sens des concepts à travers lesquels on fait et on pense la politique. Et ce qu'il faut retenir de cette approche-là, et je pense que c'est important donc de préciser mon approche de l'idéologie, parce que s'il y a bien un terme qui est ambigu, c'est celui d'idéologie. Cette conception des idéologies pose que ces idéologies-là sont d'abord toujours, comme je l'ai dit, plurielles. On ne parle pas d'une idéologie, on parle toujours de... Dans toutes les sociétés modernes, y compris en Russie, il y a plusieurs idéologies qui sont en rivalité. Pour la domination de la sphère publique, parce que quand une idéologie domine la sphère publique, évidemment, ça signifie qu'on impose dans une certaine mesure les limites du pensable, et donc du dicible et du faisable. Un autre point important au sujet des idéologies, c'est que non seulement elles sont plurielles, mais elles changent, elles se transforment avec le temps. Donc on n'est pas dans une perspective de permanence des mentalités. Et le dernier point que je voulais mentionner au sujet de cette approche des idéologies, c'est que les idéologies, malgré qu'elles changent et malgré qu'elles soient plurielles, tendent toutes à masquer le fait qu'elles ne sont qu'une parmi d'autres et qu'elles changent et donnent d'elles-mêmes l'image d'être des vérités absolues.
Mais il semble que on ait pu voir donc il y a eu la chute de l'Union soviétique, la chute d'une idéologie soviétique. On a pu voir l'émergence d'une nouvelle idéologie, l'idéologie libérale durant les années 90 à l'époque Eltsine. Mais on peut voir, il semble qu'il y ait eu la même désillusion avec le libéralisme en Russie post-soviétique. Cette fois-ci en moins d'une décennie. Comment expliquer cela?
Oui, alors. Effectivement, ce que ça montre, l'exemple de la Russie contemporaine montre un changement idéologique spectaculaire, en fait, très impressionnant, marqué d'une part donc par l'abandon du marxisme-léninisme, comme j'ai dit, et ensuite par la montée du libéralisme, comme tu viens de le préciser. Dans ce cas-là, comment expliquer donc ce revirement idéologique extrêmement rapide, si c'est pas donc un progrès de la connaissance ou une permanence des mentalités russes? En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu donc à la fin de l'Union soviétique une transformation à l'intérieur même de l'idéologie soviétique, qui se prétendait unique, monolithique, éternelle, mais qui en réalité changeait beaucoup. En fait, c'est quelqu'un qui étudierait l'idéologie soviétique de Lénine à Gorbatchev, donc dans les plus de 70 ans qu'existait l'Union soviétique, verrait qu'en fait, il y a quelques points communs, mais en fait, il y a surtout beaucoup de choses qui changent. Et si on s'intéresse à l'Union soviétique post-stalinienne, donc ces dernières décennies, en fait, on verrait qu'à l'intérieur de l'idéologie soviétique, qui donc, malgré ses prétentions à être monolithique et unique, en fait, il y avait au moins deux principales branches. Il y avait une branche qu'on appelle le socialisme démocratique, ou pour reprendre l'expression qui a été popularisée par les Tchécoslovaques à l'époque du printemps de Prague, le socialisme à visage humain. C'était cette idée que, en fait, le modèle socialiste de l'Union soviétique devait se démocratiser un peu à l'image des pays occidentaux, parce qu'on était dans une perspective d'une sorte de convergence éventuelle mondial du capitalisme et du socialisme par une socialisation du capitalisme et une démocratisation du socialisme. Et puisque le capitalisme s'était déjà apparemment socialisé sous la forme de l'État-providence, les tenants du socialisme démocratique en Union soviétique considéraient que leur devoir, ce qui leur restait à faire pour poursuivre cette voie de la convergence, c'était de démocratiser l'Union soviétique, en s'inspirant, entre autres, du parlementarisme à l'occidental. Mais à l'intérieur même du Parti communiste, il y avait aussi des gens qui défendaient une conception plus nationaliste et plus étatiste du communisme et de l'idéologie soviétique, qui défendaient plutôt les intérêts de l'Union soviétique et une vision plus verticale, plus autoritaire, plus centralisée. Et donc, comment, au final, l'idéologie soviétique est tombée? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une évolution à l'intérieur même du socialisme démocratique. C'est-à-dire d'abord les partisans du socialisme démocratique, menés par Gorbatchev, qui est devenu donc le secrétaire général du Parti communiste en 1985, ont commencé une vague de réformes, qu'on a appelée la perestroïka, pour démocratiser l'Union soviétique. Mais plus ils faisaient les réformes, plus ils se rendaient compte qu'en fait, il fallait aller plus loin pour démocratiser. Il fallait abandonner de plus en plus d'aspects de l'idéologie soviétique, si bien qu'en fait, ils ont évolué graduellement, donc à travers les années 80 et au début des années 90, vers quelque chose qui ressemble en gros à du libéralisme de gauche, la social-démocratie. Ça, c'était, par exemple, le cas de Gorbatchev. En même temps, il y a eu des gens qui ont eu des transformations idéologiques beaucoup plus rapides, des gens comme Boris Yeltsin, qui était donc un apparatchik communiste, mais qui est devenu ensuite un des leaders du camp démocrate et le premier président de la Russie post-soviétique, qui, eux, en fait, n'avaient pas vraiment de grandes réflexions idéologiques sur la réforme du socialisme avant la perestroïka, mais qui, à ce moment-là, ont eu l'occasion de voyager en Occident, sont tombés dans le cas de Boris Yeltsin, dans un supermarché, ont découvert l'abondance de la consommation dans les pays capitalistes, ont eu une sorte de révélation et ont, de leur propre témoignage, abandonné le socialisme d'un seul coup et se sont convertis non seulement au libéralisme, mais en fait au néolibéralisme.
En sachant qu'Eltsine venait d'un milieu très modeste en Russie. Hein.
Voilà, c'est ça. En plus, donc, lui, c'était pas quelqu'un qui avait eu beaucoup accès à l'étranger avant. Il venait, c'était un ancien gouverneur de province. Il venait de Sverdlovsk, aujourd'hui Ekaterinbourg en Russie. Et donc là, on a ici deux formes de passage du socialisme au libéralisme, soit par une transition graduelle du socialisme démocratique vers un libéralisme de gauche, ce qui est le cas Gorbatchev, soit une sorte de conversion instantanée et spectaculaire d'une espèce de socialisme marxiste-léniniste traditionnel vers le néolibéralisme, dans le cas de Yeltsin. Mais, comme tu le faisais remarquer, Édouard, il est bien vrai que par la suite, le libéralisme, qui a donc triomphé au terme de la perestroïka, donc au début des années 90, n'a pas fait long feu en Russie post-soviétique.
Ça a duré donc moins de 10 ans. Hein?
Oui, en fait, vraiment moins de 10 ans.
Ça a été clair dans l'histoire de la Russie.
Voilà, il y a eu une sorte de... Voilà, comment dire... Une étoile filante libérale, on pourrait dire. Oui. C'est-à-dire que les années quoi, 91, 92, 93... avec un discours franchement libéral de la part de ceux qui étaient au pouvoir. Mais après cette courte période d'euphorie, en fait, il y a eu un virage qui est tout aussi intéressant, qui était un virage qu'on pourrait dire anti-idéologique. C'est-à-dire qu'en fait, assez rapidement déçu par les résultats des réformes libérales, dont on espérait qu'en quelques centaines de jours, on parviendrait à l'économie de marché.
C'était Igor Gaïdar, je crois, qui devait faire les politiques de privatisation.
Oui, c'est ça, exactement.
Avec Choubaïs en 300 jours, 350 jours.
Oui, mais il y avait eu le fameux plan des 500 jours, là, qui disait que justement, on devait en 500 jours passer de l'économie planifiée à l'économie de marché, évidemment. Ça, c'est pas exactement passé comme ça. En fait, il y a eu un appauvrissement massif. Il n'y a pas vraiment eu de relance économique. Il y a ensuite eu la crise économique quand la Russie a fait faillite en 1998. Bref, il y a eu beaucoup de désillusions. Le libéralisme a assez rapidement été discrédité. Mais ce qui a pris sa place, en fait, c'est un genre de discours qui va être très typique de la Russie de la fin des années 90 et du début des années 2000, qui est donc un discours anti-idéologique. C'est quoi ce discours-là? En fait, c'est un discours qu'on entend chez nous aussi, des fois. C'est le discours qui se réclame du pragmatisme. du réalisme, du gros bon sens, comme on dit chez nous. C'est-à-dire cette idée que, en fait, non, nous, on ne suit pas d'idéologie. En fait, nous, comme dirigeants, on est juste des bons managers, comme on dit en Russie aujourd'hui. Un bon manager, c'est-à-dire un bon gestionnaire qui cherche juste à être efficace. Ouais. Donc, vraiment un discours ouvertement anti-idéologique qui prétend ne se réclamer d'aucun programme. Et pour comprendre, en fait, comment on en est arrivé là en Russie, je pense qu'il y a deux facteurs importants. Le premier, c'est évidemment tout simplement la réaction anti-idéologique d'abord contre le marxisme-léninisme, ensuite contre le libéralisme, dans le contexte de la désillusion des années 1990. Puis ensuite, il y a un facteur institutionnel. Et ça, je pense que c'est important de le mentionner parce que c'est peu connu. C'est qu'à partir de 1993, quand la Russie a adopté sa nouvelle constitution, le pouvoir en Russie, on peut être qualifié de ce qu'on appelle super-présidentiel. Ouais. C'est-à-dire que le pouvoir de la présidence, de l'administration présidentielle, est incomparablement
supérieur,
plus puissant que le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Il y a clairement un déséquilibre des pouvoirs en Russie.
Le Parlement n'est que consultatif, par
exactement.
Exemple.
Exactement. Le Parlement n'a qu'un rôle consultatif. Et, détail intéressant, donc l'exécutif, le président, c'est lui-même qui nomme le gouvernement, donc les ministres, indépendamment des recommandations du Parlement. Alors, le Parlement doit approuver les suggestions du président, mais s'il désapprouve deux fois, c'est lui qui est dissous. Donc, il n'y a pas vraiment intérêt à le faire.
On oublie le check and balances.
Exactement. On n'est pas du tout dans le checks and balances. On n'est pas dans le pouvoir et contre-pouvoir. On est dans la logique d'un pouvoir présidentiel, donc exécutif présidentiel, qui est en fait conçu pour être séparé de la société, pour être préservé des tensions qui divisent la société. En fait, c'est pour ça qu'il a été établi, d'ailleurs, pour établir la stabilité de la Russie dans un contexte de crise profonde. Ce qui veut dire qu'en fait, le pouvoir russe, depuis 1993, est en quelque sorte autonome de la société. Oui? Et en étant autonome de la société, il est autonome non seulement des conflits d'intérêts qui ont lieu dans la société, mais il est aussi autonome des conflits idéologiques qui se produisent dans la société. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire une différence importante entre ce qu'on parle des idéologies politiques en Russie, entre ce qui se passe dans la société et ce qui se passe au niveau du pouvoir.
On peut peut-être souligner ici quelque chose. Le fait qu'il n'y ait pas d'imputabilité comme celle-ci peut être un facteur central au fait que le président ne soit donc pas lié à un parti et donc à une idéologie, en fait.
Exactement, c'est ça. C'est un peu la logique du super-présidentialisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'imputabilité à l'égard de la société et donc il n'y a pas d'imputabilité idéologique. C'est-à-dire que le pouvoir n'est pas lié par un programme idéologique. Alors, ça peut paraître un peu abstrait de dire ça, l'imputabilité idéologique, mais si on prend un exemple concret, le premier ministre Trudeau ne peut pas déclarer comme ça, du jour au lendemain, qu'il est contre l'avortement. C'est impossible, en fait, c'est totalement impensable. S'il fait ça, il va être éjecté. Pourquoi? Parce que ça va à l'encontre du programme idéologique de son parti, le Parti libéral. Oui. Et donc, de ce point de vue-là, le premier ministre Trudeau a quand même une large marge de manœuvre, mais à l'intérieur d'un certain cadre qui est, entre autres, déterminé par l'idéologie du parti auquel il appartient. Or, le principe, justement, en Russie, la différence, c'est qu'il y a des idéologies, comme chez nous, il y a des idéologies dans la société, il y a des grosses luttes idéologiques. Alors, on peut le dire rapidement, autant au Canada... c'est surtout libéraux contre conservateurs. Ben, en Russie, c'est libéraux contre nationalistes patriotes. Bon, pour le dire rapidement, c'est deux camps qui se mènent, comme on dit aux États-Unis, des guerres culturelles permanentes à travers les médias en Russie. Mais le point, c'est que le dirigeant russe, contrairement au dirigeant canadien qui, lui, prend parti dans ces débats, puisqu'il est le chef du Parti libéral qui, lui-même, représente l'une de ses positions dans la société, le président russe se pose comme au-dessus de la mêlée idéologique, au-dessus des divisions idéologiques, et donc il se présente en fait comme l'arbitre des conflits sociaux et des conflits idéologiques. D'où, en fait, donc, une, une incitation même institutionnelle à adopter cette position anti-idéologique, hors des idéologies, ce pragmatisme, ce réalisme, ce détachement à l'égard de tout programme. C'était quelque chose qui était très évident dès le milieu des années 90 sous Yeltsin. Mais c'est quelque chose qui est encore plus évident chez son successeur, donc Vladimir Poutine, qui arrive au pouvoir, donc il est élu président en 2000, qui va avoir ce discours vraiment appuyé sur le fait que lui n'est lié à aucune idéologie, qu'il est d'abord avant tout un bon gestionnaire, soucieux d'efficacité, que sa seule idéologie, à part évidemment le renforcement de l'État, c'est le réalisme, le pragmatisme, et ça se manifeste concrètement par le fait que quand il constitue son gouvernement au sein de l'administration présidentielle, il cherche à équilibrer, en fait, à trouver un équilibre entre les libéraux et les nationalistes. On va laisser la politique de développement économique aux nationalistes et on va laisser, par exemple, la question de gestion des finances aux libéraux.
Donc, on peut... On peut observer qu'il y a tout de même un déclin idéologique en Russie post-soviétique au niveau du pouvoir central, qui est quand même, on l'a souligné, le pouvoir exécutif.
Oui, exactement. C'est-à-dire que je veux juste donc souligner la différence entre le fait que la société russe elle-même reste profondément marquée par des conflits idéologiques, entre les libéraux et les nationalistes principalement, mais que le pouvoir s'est institué comme au-dessus de ces luttes idéologiques et qu'en fait, ça fait partie de son attirail autoritaire que de justement chercher à garder...
Les mains libres. En
fait. Les mains libres, exactement. À ne pas avoir d'imputabilité envers un quelconque programme politique.
Que doit-on dire de ceux qui pensent que Poutine n'est pas neutre sur l'arbitrage des idéologies? En témoigne le lien fusionnel avec le clergé et l'Église orthodoxe.
Oui, effectivement. Donc, c'est une idée qui est très répandue, surtout ces dernières années, où dans la presse, beaucoup, mais aussi chez les chercheurs, on a décrit Poutine comme étant foncièrement nationaliste, foncièrement conservateur, quelque chose comme le défenseur des valeurs chrétiennes contre une Europe décadente, etc., etc. Alors, évidemment, à première vue, ça ne cadre pas du tout avec ce que je viens de dire sur le fait qu'il avait une posture anti-idéologique, qu'il était au contraire un arbitre des idéologies, qu'il ne prenait pas parti. Alors, comment l'expliquer? Eh bien, l'explication, c'est tout simplement que ça change. Et qu'en fait, la marge de manœuvre que conservent Poutine et le Kremlin à l'égard de toutes les idéologies, autant ça leur permet de garder une distance quand ils le souhaitent, autant ça leur permet, s'ils considèrent que c'est nécessaire, de procéder à un investissement idéologique majeur, à une mobilisation idéologique massive... s'ils considèrent que c'est nécessaire à la préservation du régime, mais de manière purement instrumentale. Et c'est ce que je pense, exactement ce qui s'est produit à partir de 2012 en Russie. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en 2012? Donc, à l'hiver 2011-2012, il y a eu des très grandes manifestations en Russie. Un peu comme les révolutions de couleur dans d'autres pays post-soviétiques, nommément la Géorgie, l'Ukraine et le Kyrgyzstan. Et le régime russe a eu très peur. Parce que là, il y avait des grandes manifestations, en particulier à Moscou et à Saint-Pétersbourg, donc parmi la population urbaine éduquée, qui sont descendus dans les rues, qui ont protesté, etc. Le régime a eu très peur. Et en fait, qu'est-ce qui lui a fait le plus peur? C'est quand ils se sont rendus compte que, parce que ça faisait des années qu'ils avaient une posture anti-idéologique, c'était extrêmement difficile avec cette posture anti-idéologique de faire descendre dans la rue des partisans de leur régime qu'ils pourraient opposer justement aux contestataires. Alors, parce qu'effectivement, c'est difficile de mobiliser les gens, ouais, avec un discours anti-idéologique. On ne fait pas descendre les gens dans la rue avec le gros bon sens. Ouais. Donc, pour sauver le régime, c'était comme ça qu'ils l'ont vu, il y a eu un virage majeur. Il y a eu un virage majeur à partir de 2012 qui a consisté en fait à... faire justement une mobilisation idéologique majeure, à abandonner le rôle d'arbitre entre les idéologies pour en choisir une. J'ai dit qu'il y en avait deux grandes qui étaient en confrontation aussi contemporaine, les libéraux et les nationalistes. Eh bien, le régime a choisi son camp et en fait, il a choisi le camp qui est celui qui est suivi par la majorité de la population en Russie, c'est-à-dire le camp nationaliste, parce que le camp libéral est plutôt représenté par les élites urbaines éduquées, qui sont influentes, mais pas numériquement.
Mais qui sont ancrées géographiquement dans les deux, trois plus grandes villes.
Voilà, en plus, ils sont très concentrés. Alors, pour cette raison-là, ils sont assez influents parce qu'ils sont dans les lieux de pouvoir, mais ils restent quand même minoritaires. Alors, à partir de 2012, le régime fait le pari de la majorité silencieuse, comme on dit souvent, et donc décide de faire un gros virage en ouvertement, explicitement, ostensiblement nationaliste. Là, ça se manifeste par une série de lois assez célèbres, dont une...
Tristement célèbre.
Tristement célèbre, effectivement. Alors, la première, c'est la loi contre l'offense au sentiment des croyants, qui est en fait une loi contre le blasphème, où l'État, donc, prend fait et cause pour l'Église orthodoxe. Il va y avoir une série d'autres mesures de rapprochement avec l'Église orthodoxe chrétienne. Chrétienne orthodoxe de Russie. Un autre signe de ce virage qu'on a appelé le virage conservateur de 2012.
La loi contre la propagande.
Exactement, ouais, exactement. La loi, ce qu'on appelait la loi contre la propagande homosexuelle, qui est effectivement tout simplement une loi contre la manifestation publique de l'homosexualité, par laquelle le régime cherche à se montrer comme le défenseur des valeurs traditionnelles russes. Puis on peut aussi nommer plus récemment la loi qui a décriminalisé la violence domestique, dont la justification est que le régime, encore une fois, se présente en défenseur des valeurs traditionnelles russes, qui inclurait apparemment le droit de taper sur ses enfants et sa femme. Donc, il y a eu cette forte mobilisation idéologique nationaliste qui a culminé, en fait, dans, au moment de l'annexion de la Crimée, au printemps 2014, qui a été justifiée par le régime par la nécessité d'une sorte de solidarité ethnique et culturelle à l'égard des Russes qui vivent à l'extérieur de la Russie, puisqu'il faut savoir que la Crimée était et est toujours peuplée majoritairement de Russes. Et donc, il s'est reprise d'un élément clé du discours nationaliste et reprise aussi du discours d'un des grands idéologues nationalistes le plus connu, Alexandre Dugin, avec ses concepts d'Eurasie, d'eurasianisme, etc., qui ont donc été repris au printemps 2014 par Poutine, et qui, pour cette raison, a fait dire à peu près tous les médias occidentaux que...
C'était Dugin, le maître à penser du Kremlin.
Exactement, que c'était son éminence grise, que c'était lui qui déterminait la politique de Poutine, alors que ce qu'il faut voir, c'est que Poutine a fait un usage extrêmement court dans le temps et instrumental des idées de Dugin, qui a rapidement abandonné peu après. Puisque, comme je l'ai dit... Si on part du principe que, pour des raisons institutionnelles, le régime russe est détaché des combats idéologiques qui ont lieu dans la société russe, pour la simple et bonne raison qu'il est lui-même détaché de la société russe, pour ne pas lui être imputable, eh bien, le régime russe, pour cette raison-là, s'est rendu compte assez rapidement qu'il n'avait pas intérêt à prolonger trop longtemps cette mobilisation idéologique nationaliste, parce que ça pouvait se retourner contre lui. Très concrètement, ça voulait dire que les nationalistes, encouragés par les gestes du Kremlin, ont commencé à être de plus en plus audacieux et de plus en plus revendicateurs. On peut penser, par exemple, au cas des vétérans de la guerre du Donbass, donc de l'intervention russe dans l'ouest de...
l'est de l'Ukraine.
Oui, c'est dans l'est de l'Ukraine, qui, en revenant en Russie, couverts de gloire, ont réclamé plus de pouvoir, ont réclamé d'avoir un rôle politique, ce que le régime était effectivement... pas en mesure ou ne voulait pas leur donner, puisque ça aurait signifié sacrifier son propre pouvoir. Et donc, qu'est-ce qui se passe depuis 2015? On assiste à un impressionnant rétropédalage du Kremlin qui cherche à démobiliser les nationalistes russes qui sont rendus beaucoup trop agressifs, beaucoup trop revendicateurs. Et ça se traduit non seulement par une répression contre les nationalistes russes, que lui-même avait encouragé... précédemment, mais aussi par un retour en force des libéraux au sein de l'administration présidentielle, dont le principal accomplissement a été la loi pour la réforme des retraites, loi néolibérale dans son inspiration, qui est passée l'année dernière et à laquelle s'opposaient les nationalistes. Ce qui montre en fait que ce qui se passe en ce moment en Russie, d'un point de vue idéologique, c'est non pas la confirmation de la nature profondément nationaliste de Poutine, mais au contraire, la tentative de Poutine de revenir à la posture anti-idéologique qu'il avait eue dans ses deux premiers mandats, après l'épisode de la mobilisation idéologique nationaliste de 2012-2014, qui avait été adoptée de manière instrumentale afin de sauver le régime.
Guillaume Sauvé, merci d'avoir partagé vos réflexions avec nous aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes professeur invité au département de sciences politiques. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.
Ça fait plaisir. Merci.
CKUT Radio.
Sound waves in the air.
CKUT.
Ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infecté par le virus de la COVID-19. pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec.
You're listening to CKOT 90.3 FM in Montreal. Made in Brazil is always broadcast for you on the first Monday morning of the month from 9 a.m. until 11 a.m. Today, January 4, 2021, this is our first show of 2021. Your host and programmer, Daniel Shore. This show is being pre-recorded from home because I am social distancing, respecting the measures in place during the pandemic crisis. Thanks for listening.
Eu tenho inveja dos mocinhos da avenida, de ombros largos, elegância nos quadris, roupa lavada, casa, luz e até comida, tudo de graça, ó que gente tão feliz. Infelizmente eu trabalho muito, infelizmente eu trabalho muito,
infelizmente eu trabalho muito, infelizmente eu trabalho muito.
Conheço um cabra que tem sorte até comendo.